France Inter.
Bonsoir Fabienne Sintès.
Bonsoir Marie et Marine, à demain. On y va, c'est parti pour deux heures ensemble. 18-20 France Inter est ouvert. Soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Et bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, la France aurait pu arrêter le génocide des
Tutsis. Les mots ce soir d'Emmanuel Macron rapportés par l'Elysée alors que le Rwanda s'apprête à commémorer les 30 ans du génocide des Tutsis. Le chef de l'État ne pourra pas se rendre à Kigali, mais il publiera un message vidéo dimanche. Explication dès le début de ce journal.
Et on en parle aussi avec l'historien Vincent Duclerc et c'est l'invité de ce journal. Les autres titres, Kevin.
Interdire les polluants éternels, oui, mais pas pour fabriquer des poêles et des casseroles. L'Assemblée nationale vote la loi proposée par les écologistes, mais amendée par la droite. Nous serons à Kharkiv après les frappes meurtrières menées ce matin par la Russie. Et puis vous ferez la rencontre du plongeur français qui fait rire Internet malgré lui depuis ce matin.
Allez, dans le 18-20 ce soir, à deux mois ou un peu plus des élections européennes. On va essayer de rendre l'Europe sexy. En tout cas, c'est l'ambition de Coco Pelo qui signe une BD dans les coulisses de l'Europe. Il a donné de sa personne, il va nous le raconter. Il sera avec Maxime Caligaro qui lui aussi s'était donné pour but de rendre l'Europe sexy dans la série Parlement. Le reportage est au Rwanda ce soir ou à l'approche des cérémonies des commémorations des 30 ans donc du génocide des Tutsis. Des souvenirs douloureux refont surface. Vous nous raconterez, Kevin, l'histoire de ce joueur de foot sanctionné pour avoir voulu casser la figure d'un supporters racistes. Franck Madvon à 18h50 nous parle des coups de fil entre la France et la Russie. Et dans la tech la première, Stéphane Jourdain a laissé l'intelligence artificielle commenter du foot. Vous allez voir, c'est assez moche. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne, je vous le mets en tête tout de suite. On compte nos pas ce soir, on oxygène nos cœurs, on découpe nos gestes. Est-ce que les data, les données, les appareils connectés transforment notre pratique du sport et même révolutionnent le sport chez les amateurs comme chez les pros? À vos téléphones.
France Inter.
30 ans après, donc, trouver les mots pour assumer les responsabilités de la France.
C'est ce que semble vouloir faire Emmanuel Macron, alors que dimanche, le Rwanda commémorera le début de ce qui a été 3 mois d'horreur. Le 7 avril 1994, commencé le génocide des Tutsis par les Hutus, plus d'un million de morts. La France, qui aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés, n'en a pas eu la volonté. Voilà la phrase lâchée ce soir par l'Élysée, des mots qu'Emmanuel Macron tiendra dans une vidéo publiée dimanche. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Il y a 3 ans déjà, à Kigali au Rwanda, le président de la République avait eu des mots très forts, mais là il va encore plus loin.
Oui, parce que dans ce discours de 2021 au mémorial du génocide, Emmanuel Macron avait certes reconnu la responsabilité accablante de la France, mais il assurait aussi que la France cherchait précisément à éviter l'engrenage qui a abouti au pire, qu'elle pensait pouvoir arrêter ce qui était à l'œuvre et qu'elle n'avait pas su tirer les conséquences appropriées des alertes émises par certains responsables français. Cette fois, le chef de l'État affirme que la France et ses alliés n'ont pas voulu arrêter le génocide, ce qui n'est pas anodin. Alors pourquoi ces mots et pourquoi maintenant? Parce qu'il ne sera pas, vous l'avez dit, dimanche à Kigali pour les commémorations. Il sera en Haute-Savoie et dans l'Ain pour les 80 ans de la libération, pour un hommage aux résistants du maquis des Glières et aux enfants juifs de la maison Dizieux. Au Rwanda, il sera représenté par le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné et par le secrétaire d'État à la mer Hervé Berville, qui est lui-même orphelin rescapé du génocide. Par cette déclaration et par cette vidéo publiée dimanche, le président a donc voulu, malgré cette absence, montrer que la France n'oublie pas ce que fut son rôle il y a 30 ans.
Les explications de Simon Le Baron, service politique de France Inter.
Et bonsoir Vincent Duclerc.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, vous avez dirigé la commission d'historiens et de chercheurs sur la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Cette commission qui porte votre nom, vous avez sorti ce livre qui s'appelle « La France face au génocide des Tutsis, le grand scandale de la Ve République » chez Talendier en janvier, qui prolonge votre travail à la commission. Monsieur Duclerc, ce que la France avait déjà acté, Simon Le Baron l'a rappelé en 2021, c'est donc la responsabilité de la France. Là, il dit « nous aurions pu arrêter, nous n'en avons pas eu la volonté ». Est-ce que selon vous, non seulement c'est un pas en avant, mais c'est surtout le pas qu'il manquait ?
C'est un pas en avant, incontestablement. Déjà, c'est intéressant parce qu'effectivement, comme l'a dit votre journaliste, on sentait que la France était peut-être un peu en retrait sur cette trentaine commémoration. Et là, le président de la République, la France revient vraiment au premier plan, très très clairement, par une déclaration très forte, parce que justement, à Kigali, donc le 27 mai 2021, il a bien reconnu ses responsabilités accablantes du niveau politique. Et on parle du niveau politique, on parle de la présidence de François Mitterrand. Et là, effectivement, il reprend effectivement le dossier en montrant que, tous les moyens étaient là, et en particulier ceux des lanceurs d'alerte au sein de l'État, mais aussi des ONG, mais aussi des journalistes, mais aussi des militants, qui étaient là et qui pouvaient effectivement, avec ces moyens-là, arrêter le génocide tôt. Et de ce point de vue-là, c'est quand même une reconnaissance extrêmement forte de toutes les fautes, d'une certaine manière, que la France a commises donc à partir de 1990 au Rwanda.
Et Monsieur Duclerc, qu'on soit bien clair, est-ce qu'on parle de la phase préparatoire au génocide que l'on a vue, que l'on connaissait et à laquelle nous sommes restés sourds? Est-ce que l'on parle même du début des massacres à partir du 6 avril? Est-ce qu'on parle de ces deux phases-là?
Alors là, on le saura certainement dans la vidéo. Et ce qui est intéressant aussi dans le message vidéo du président, c'est que l'annonce là qui vient de sortir, qui est quand même une surprise. Et donc, encore une fois, c'est très clairement, la France revient au premier plan sur cette question mémorielle et historique. On en saura plus certainement dans le message vidéo. Il semble quand même que Emmanuel Macron parle de la phase paroxysmique, celle d'avril 1994, puisque effectivement, là, les moyens juridiques, en particulier la France, on connaît le génocide le 16 mai. Et effectivement, il n'y a pas de suite, d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas de volonté politique d'intervenir. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, sur laquelle il faut insister, que le président de la République relève de manière, on peut le dire, c'est assez courageuse, comme il l'a fait dès 2021. Et là, c'est vraiment un champ qui s'ouvre, en particulier, et là, c'est très intéressant dans la déclaration, c'est le fait que, finalement, la connaissance que nous avions du génocide des Arméniens et de l'extermination des Juifs d'Europe n'a pas été utilisée, parce que, effectivement, on niait la réalité d'un mécanisme génocidaire qui, lui, commençait dès 1990.
Quand vous parlez d'un champ qui s'ouvre, quand vous parlez de volonté politique, ce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser, Vincent Declercq, c'est que quand on n'arrête pas un massacre, c'est qu'on incite à ce massacre.
Alors, il faut être très très précis, donc c'est le rapport de la commission que j'ai présidé, puis aujourd'hui mon livre, c'est qu'effectivement les autorités politiques françaises, et d'abord la présidence de la République qui a fait de l'Euro-Rwanda un laboratoire politique personnel au fond de François Mitterrand, donc a soutenu le régime qui prépare le génocide sans vouloir le génocide, mais en ayant énormément d'informations, vous voyez. Donc, c'est là, il y a une ligne de crête, je veux dire, très très juste, qu'il faut effectivement maintenir actuellement, au vu effectivement de la connaissance que nous avons. Nous avons vu dans le rapport qu'il n'y a pas, si vous voulez, d'archives qui montrent que l'État français veut s'associer à l'extermination. Mais le soutien inconditionnel, en particulier à partir d'octobre 1990, au régime qui prépare le génocide, là pose un problème majeur. Et on en arrive effectivement à ce que, au sein de l'État, dans le champ public, il y avait tous les éléments, si vous voulez, de connaissance pour permettre d'arrêter en fait à la fois le processus, mais aussi la phase paroxysmique, notamment, et ça j'insiste, sur les moyens que finalement les Nations Unies vont dégager. Il y a des casques bleus au Rwanda, il y a le 8 juin le Conseil des sécurités qui reconnaît les actes de génocide, donc dès lors qu'il y a actes de génocide, la communauté internationale, et la France en particulier, parce que la France est la plus massivement mobilisée en fait sur le Rwanda, et donc la France est leader quand même sur le plan international.
Monsieur Declercq, juste une dernière chose, est-ce que selon vous, malgré tout, alors on a entendu pourquoi il ne venait pas, est-ce que vous vous dites peut-être qu'il aurait fallu y aller, il fallait la dire à Kigali cette phrase?
Moi, je pense que c'est bien de le dire en France, parce que c'est quand même des responsabilités françaises, vous voyez. Emmanuel Macron dit clairement, au fond, il atteste aussi des progrès de la recherche depuis 3 ans, c'est quand même quelque chose d'important. Finalement, le fait que la France apparaissait peut-être un peu en retrait, avec cette déclaration, puis avec le message, il semble que, justement, ça sera aussi à Paris que la 31e commémoration sera inscrite, et de ce point de vue-là, je pense que il y a une logique et une raison à ce que tout cela soit dit depuis Paris, depuis la France.
Vincent Duclercq, historien qui a dirigé la commission d'historien et de recherche sur la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Merci beaucoup.
Et je vous rappelle que nous serons au Rwanda avec le reportage d'Un jour dans le monde dans une demi-heure. L'actualité ce soir, c'est aussi cette enquête administrative lancée aujourd'hui par la ministre de l'Éducation nationale après la violente agression de Samara devant son collège de Montpellier. Avant-hier, l'adolescente de 14 ans frappée par plusieurs jeunes Trois mineurs ont été placés en garde à vue hier dans cette affaire. Objectif, tout savoir sur ce qu'il s'est passé durant les semaines et les mois précédents, assure Nicole Belloubet, notamment identifier d'éventuels problèmes de harcèlement scolaire. Déployer un bouclier autour de l'école, c'est d'ailleurs l'intitulé du plan qui est sorti cet après-midi d'une réunion sur ces incidents qui se multiplient ces dernières semaines à l'école entre les ministères de l'Éducation nationale, de la Justice et de l'Intérieur. Mais bonsoir Sonia Princé.
Bonsoir.
Mais ce plan, c'est surtout la confirmation, Sonia, de dispositifs existants ou déjà annoncés.
Oui, sur le premier volet, la sécurité des élèves, le plan rappelle toutes les mesures anti-harcèlement, la remontée systématique des faits préoccupants via une application qui existe déjà. Sur le deuxième axe, la protection des personnels, le gouvernement veut renforcer certains dispositifs comme les lignes d'appel prioritaires pour être en lien direct avec les forces de l'ordre en cas de menace ou les procédures disciplinaires dès qu'un élève conteste un enseignement. Ce qui est nouveau, c'est la publication d'un guide pratique pour les personnels avec des fiches concrètes sur, par exemple, la protection fonctionnelle qui leur sera accordée dès qu'ils sont victimes d'agressions ou de menaces. Le guide contiendra des modèles de plainte ou de constitution de partie civile. Enfin, sur la sécurisation des établissements, la création d'une force de sécurité mobile au niveau national a été annoncée la semaine dernière. Le plan reprend aussi tout ce qui est déjà en vigueur en matière de prévention et de mise en sécurité des locaux et il fait des recommandations pour sécuriser les accès aux espace numérique. Sur ces points, il faudra bien sûr un engagement des collectivités territoriales.
Sonia Princé, spécialiste éducation à la rédaction de France Inter.
Les députés unanimes cet après-midi à l'Assemblée nationale.
186 voix pour, aucune contre, c'est assez rare pour être souligné. Ils ont adopté cet après-midi la proposition de loi du groupe écologiste qui prévoit l'interdiction des PFAS dans un certain nombre de produits, ce qu'on appelle aussi les polluants éternels. Certains sont dangereux pour la santé à partir du 1er janvier 2026, terminé dans les cosmétiques, par exemple. Bonsoir Claire Flochel.
Bonsoir.
Mais ça pourra toujours être utilisé pour les ustensiles de cuisine, c'est donc une victoire en demi-teinte pour les écologistes.
Oui, Kevin, même si en sortant de l'hémicycle, les Verts veulent voir le verre à moitié plein. Il y a un an, il n'y avait pas la moindre réglementation, dit le rapporteur du texte, l'écologiste Nicolas Thiry.
Aujourd'hui, on a réglementé le textile, la cosmétique, les fards de ski. On va tester l'eau potable partout sur le territoire national. Et pour la première fois, on va au-delà du principe pollueur-payeur, on l'inscrit dans la loi. Rien que ça, c'est une victoire.
Par contre, les ustensiles de cuisine ne sont pas concernés par le texte, après une forte mobilisation, en particulier du groupe SEB qui détient Tefal, dont la pression a fonctionné, estime Nicolas Thiry.
Le point de recul qu'il y a eu, c'est justement le point de recul où il y a eu un lobby d'un industriel. Et ça, on peut regretter que la majorité, la droite et l'extrême droite, aient pu être perméables à un lobby aussi grossier.
Un amendement a en effet finalement écarté les ustensiles de cuisine de l'interdiction des PFAS. Le rapporteur ne peut s'en prendre qu'à lui-même, estime le député MoDem Cyril Isaac Sibyl.
J'avais fait un amendement de compromis. Malheureusement, le rapporteur écologique n'a pas saisi la perche. Et comme il n'a pas saisi la perche, il a été battu. Je le regrette dans le sens où on aurait pu faire un pas. Qu'on ne me dise pas que je suis porte-parole de ces industriels, c'est une malhonnêteté intellectuelle que je ne supporte pas.
Il va falloir repartir à la bataille sur ce sujet, dit de son côté l'écologiste Charles Fournier.
Il y aura d'autres propositions de loi, il y aura d'autres manières de ramener le sujet sur le devant de la scène, mais en tout cas ce n'est pas acceptable d'en rester à ça.
Pour le moment, c'est ce texte qui devrait être désormais repris par les sénateurs écologistes à la fin du mois de mai.
Claire Flochel en direct de l'Assemblée nationale avec Johanna Gabric pour les moyens techniques. Et le groupe SEB, qui détient notamment la marque de poêle et de casserole Tefal, se dit ce soir rassuré de l'exemption accordée aux produits de cuisine. Hier, des centaines de salariés du groupe ont manifesté devant l'Assemblée nationale. L'armée israélienne a visé intentionnellement les véhicules de World Central Kitchen à Gaza. C'est ce qu'affirme ce soir José Andrés, le chef cuisinier à la tête de l'ONG américaine, dans un entretien à Reuters. Trois jours après la mort de six humanitaires étrangers et de leur chauffeur palestinien, on va y revenir dans le journal de 19h. Joe Biden doit appeler ce soir à ce propos Benjamin Netanyahou. Le président américain et le premier ministre israélien ne se sont pas entretenus depuis près de trois semaines. Quant en Ukraine, Volodymyr Zelensky parle d'une attaque méprisable et cynique. Réaction du président ukrainien après les bombardements russes qui ont fait au moins 6 morts et 12 blessés dans cette ville de l'est du pays ce matin. Une attaque de type double frappe, c'est-à-dire que la Russie a bombardé une première fois un lieu, puis une deuxième fois. Une fois que les secours étaient sur place, trois membres des services d'urgence sont morts. Le reportage à Kharkiv de l'envoyé spécial de France Inter, Agathe Mahué.
Il s'éloigne de chez lui, l'air épuisé, Oleksiy. Vers 2h du matin, un drone Shahed s'est écrasé sur son petit immeuble de 2 étages.
Tout a été secoué très fort, les fenêtres soufflées. Alors on est descendu ici, dans la cour, et on nous a dit de nous éloigner. Puis on a entendu le bourdonnement du deuxième drone. Avec ma femme et mon enfant de 6 ans, on s'est plaqué au sol, et le drone s'est écrasé sur le camion de pompiers. Les 3 secouristes sont morts.
Un petit groupe se forme autour de ce qui reste du coupable et qui vient d'être extrait des gravats, ce moteur de drone Shahed semblable à celui d'une mobylette. Face à ce type de frappe directe, rien n'aurait pu sauver nos camarades, dit un secouriste. Et partout, on s'active. Les fenêtres brisées sont déjà toutes remplacées par des planches de bois. Normal que cela aille si vite, dit Pavlo, à la tête d'une équipe de bénévoles déjà prêts à reconstruire.
Il y a des gars sur le front qui nous défendent. Et nous, les civils, on apporte notre aide là où c'est nécessaire. C'est grâce à ce tandem qu'on pourra aller jusqu'à la victoire.
C'est aussi une question d'habitude pour ces Ukrainiens de Kharkiv. La ville n'est située qu'à 40 km de la frontière russe. Ils savent qu'il y aura bien d'autres interventions comme celle-là.
Agathe Mahué, envoyée spéciale de France Inter en Ukraine.
La décrue se poursuit dans l'Yonne.
Le département n'est plus placé en vigilance rouge par Météo France, ni aucun des bassins ou des cours d'eau. Plus vraiment de pluie prévue dans les prochaines heures dans cette région. Elodie Calac va y revenir dans sa météo dans quelques minutes. Demain, les températures vont commencer à grimper, surtout dans le sud où elles devraient dépasser les 30 degrés localement ce week-end. Alain Delon, placé ce soir par la justice sous curatelle renforcée, un régime de protection moins strict que la tutelle qui était demandée par ses 3 enfants. L'acteur de 88 ans est diminué depuis un AVC en 2019. Enfin, c'est l'image de la journée qui inonde les réseaux sociaux depuis ce matin et l'inauguration du centre aquatique de Saint-Denis qui va accueillir les épreuves des Jeux Olympiques. L'image de ce plongeur qui glisse lors d'une démonstration, qui tombe sur le dos, sur le plongeoir, avant de tomber dans la piscine. Ça fait bien sourire sur Internet, mais ce monsieur est très sérieux, il s'appelle Alexis Jandard et il sera en lice, William Delesseux, pour une médaille cet été.
Oui, vous dire d'abord que l'athlète de 26 ans ne s'est pas blessé. Il a tout de même une large marque rouge dans le dos, juste au-dessus de son tatouage qui représente les anneaux olympiques. Photo postée sur ses réseaux sociaux juste après nous avoir donné ces nouvelles rassurantes.
Le dos va très bien, c'est juste c'est des égratignures, c'est des choses qui sont impressionnantes mais qui ne m'empêcheront pas de m'entraîner étant donné qu'il y a les Jeux dans 3 mois. Ce serait dommage de se blesser maintenant et dans un moment pareil. Donc je tiens à rassurer tout le monde, tout va bien, je vais bien. Je pense qu'il y a eu plus de peur que de mal. Et puis si ça a pu en faire sourire certains, tant mieux, puisque même moi je l'en rigole aujourd'hui.
Le plongeur revient à Saint-Denis dès le 27 juillet pour les premières épreuves de haut vol ou de tremplin. C'était ce matin la première fois donc qu'il expérimentait ce tout nouveau centre aquatique.
J'ai passé quand même un bon moment globalement et puis ça fait parler de notre sport parce que bah franchement on attendait cette piscine depuis des années, même depuis toujours. Donc le fait d'avoir cette inauguration, ça reste quand même quelque chose de très bien qui a été, on va dire, rythmé et animé par cette chute.
Alexis Jandard a replongé tout de suite. Il est en ce moment à l'entraînement, au menu 400 saltos par jour pour être prêt en juillet. Un athlète prometteur, il a remporté le bronze en plongeon synchronisé aux derniers mondiaux de natation.
William Delesseux, là en revanche, la chute a été beaucoup plus sérieuse en cyclisme. 3 favoris au tapis cet après-midi sur le Tour du Pays Basque, dont le Danois double vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard, qui a été évacué sur civière et sous assistance respiratoire. Mais il était conscient, indique son équipe Visma Lisebike ce soir. Abandon aussi pour Primoz Roglic qui était jusque-là leader du classement général et Remco Evenepoel chute à haute vitesse en descente dans un virage. La course a été neutralisée durant près d'une heure.
Kevin Dufraîche, merci beaucoup. Vous reviendrez dans Un jour dans le monde tout à l'heure en passant sous les radars avec l'actualité internationale sous le bras. Un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Élodie Calac, bonsoir. Belle hausse des températures pour demain.
Oui, déjà cet après-midi, il a fait 26,5 degrés à Dax, plus de 25 degrés à Biarritz, 24 à Agen, 20 à Nevers et presque 20 à Paris aussi, hein, sous le soleil cet après-midi. Les températures, elles monteront encore d'un cran demain. Petite aire d'été qui s'installe pour cette fin de semaine. Souvent 8 à 14 degrés demain matin jusqu'à 20 à Biarritz. Et puis l'après-midi, 17 à 22 degrés au nord de la Loire, près de la Méditerranée. 22 à 25 ailleurs, jusqu'à 26 à 29 au sud de la Garonne. Ce sera samedi, hein, la journée la plus chaude de l'épisode. Et puis dès dimanche, ça baissera par l'ouest avec l'arrivée de nouvelles pluies.
Et encore un peu de pluie au nord demain.
Oui, on aura quelques pluies du nord-ouest au nord de la Seine le matin. À peine quelques gouttes de la Bretagne vers les Ardennes et la Lorraine l'après-midi. On trouvera des éclaircies vers le nord-est le matin, au nord de la Seine pour l'après-midi. Et puis au sud, du soleil dès le matin, mais quand même de la grisaille, surtout vers le Languedoc-Roussillon.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup Élodie. Vous reviendrez tout à l'heure après le journal de 19h ce soir dans le 18-20.